Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
Avons-nous deux personnalités, celle que nous voulons présenter aux autres par notre discours sur nous-mêmes et celle que révèlent nos pérégrinations numériques, nos recherches sur Internet, nos achats, nos déplacements, téléphone portable en poche. Ce double numérique est-il conforme à la façon dont nous nous présentons ou révèle-t-il une personnalité différente ? On en parlera avec Bernard Harcourt, il est professeur de droit et de sciences politiques, il est l'auteur de « La société d'exposition » publié aux éditions du Seuil. Sylvie Noël l'a rencontré dans son université américaine de Columbia. De nouveaux outils numériques pour lutter contre l'infox, c'est le thème de la chronique de la rédaction des Observateurs de France 24. Nous retrouverons Julia Galland en fin d'émission. Et on parle du combat contre les fake news avec vous également, Sophie Malibaud, bonsoir.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors la désinformation se propage en Afrique de l'Ouest sur les réseaux sociaux et pourtant des outils existent pour repérer les infox. Encore faut-il savoir les utiliser. Les actions de formation se multiplient sur le continent à l'adresse de la société civile. Et votre chronique, Sophie Malibaud, s'intéresse à l'une de ces initiatives menées de concert avec Internet sans frontières, n'est-ce pas ?
Oui, alors l'objectif, c'est d'apprendre à démêler le vrai du faux sur Internet. Les manipulateurs, les affabulateurs sont en embuscade, on le sait, sur les réseaux sociaux. En cas de crise, en cas de pandémie, de conflit, et tout particulièrement en période électorale, ou bien lors d'événements faisant irruption dans la vie politique, comme par exemple en temps de coup d'État et autres manœuvres politiques. Alors difficile de s'y retrouver pour le citoyen, d'autant que ceux qui dénoncent ces pratiques en sont parfois eux aussi des adeptes. Spécialiste des médias numériques, Kemal Afanion connaît bien le phénomène.
Les États africains sont de plus en plus sensibles à toute information qui leur serait nuisible, qui viendrait par exemple contredire des sources d'infos officielles, qui pourraient venir semer le trouble dans les champs médiatiques africains ou même saper l'image par exemple du leader politique. Donc ça, ils craignent donc les fake news par rapport à cette capacité de nuisance qu'elles ont. Mais dans le même temps, quand on observe par exemple les pratiques de désinformation dans plusieurs pays d'Afrique, on retrouve en fait que vous avez des acteurs locaux qui s'adonnent à la pratique de la désinformation et au nom de ces acteurs, vous avez des dirigeants politiques, en fait, donc que ce soit pour salir, par exemple, un concurrent politique, dégrader l'image d'un opposant, ou pour calomnier, mener des pratiques de désinformation obscure, trouble. Donc, on retrouve des acteurs locaux qui, des fois, sont aussi promptes à décrier donc, cette pratique, en même temps, quand c'est le camp inverse qui le fait.
Observateur avisé de la désinformation sur les réseaux sociaux, Kemal Afanion estime que les infox sont de plus en plus sophistiqués et difficiles à repérer. Avec Internet sans frontières et le projet Sentinel, ils fournissent aux internautes intéressés une boîte à outils avec mode d'emploi.
Récemment, il y a un outil qui a été également développé, par exemple, qui permet de traquer certains tweets malicieux donc diffusés par des politiciens. Et l'outil va même plus loin parce qu'on s'est rendu compte que certains politiciens qui sont épinglés dans les pratiques de désinformation vont rapidement effacer des tweets, par exemple, trompeurs. Donc l'outil va plus loin et est capable d'aller chercher même ces informations quand elles sont supprimées. Donc il permet de constituer des véritables bases de données. Donc l'outil sera présenté aux participants et ils pourront donc être formés à l'utilisation de cet outil pour donc, dans le cadre de leurs activités professionnelles, l'utiliser pour justement mieux cerner ces pratiques qui sont orchestrées de plus en plus par les politiciens en Afrique de l'Ouest, par exemple.
Alors, concrètement, comment faire pour acquérir ces techniques de fact-checking ?
Alors, si vous n'aimez pas vous faire avoir et si vous voulez pouvoir lutter par vous-même contre la désinformation, un prochain webinaire aura lieu les 28 et 30 septembre, tout prochainement. Vous pouvez donc vous inscrire par mail à l'adresse suivante contact@internetsansfrontieres.org. contact@internetsansfrontieres.org. Vous retrouverez cette adresse sur le site RFI, les dessous de l'infox, la chronique. Et n'oubliez pas le numéro de WhatsApp des dessous de l'infox, 06 89 07 61 09, pour nous signaler les informations douteuses que vous voyez circuler et que nous vous proposons de vérifier ensemble.
Les dessous de l'infox.
Merci Sophie Malibaud, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine François.
Que Que révèle de nous Internet ? Nous passons des heures sur notre smartphone, laissant au fil de nos écrits, de nos photos, une masse considérable de données. Alors, quelle est cette identité qui émerge ? Est-ce que ce double numérique est conforme à la façon dont nous nous présentons nous-mêmes ?
On en parle.
On en parle avec Bernard Harcourt. Il est professeur de droit et de sciences politiques. Il enseigne à l'Université américaine de Columbia. Il a publié « La société d'exposition » aux éditions du Seuil. Sylvie Noël l'a rencontré dans son bureau de l'Université de Columbia.
Bernard Harcourt, bonjour.
Bonjour.
Dans la société d'exposition Désir et désobéissance à l'ère numérique, on comprend que nous avons donc deux personnalités, celle que l'on raconte, comment on se présente aux autres, et puis celle qui se révèle ou qu'on révèle nous-mêmes sur Internet.
Oui, c'est ce rapport entre notre moi analogique et notre imagination de soi-même, de nos propres désirs, de qui on est subjectivement, de notre réalité tangible et matérielle d'un côté, et de l'autre côté, toutes les traces qu'on laisse. Les traces qu'on laisse délibérément, il y en a bien sûr quelques-uns qu'on met en place, par exemple nos présentations sur Twitter ou Facebook ou sur nos sites web, notre CV, les choses qu'on y met avec intentionnalité, mais aussi toutes les traces qu'on laisse au jour le jour, en faisant des recherches sur Google ou en achetant des choses sur Amazon ou bien simplement en ayant un mobile sur soi. Et toutes les traces GPS qu'on laisse. Et vous savez, c'est précisément toute cette masse de traces qu'on laisse, pas consciemment et pas intentionnellement, qui devient d'une certaine manière plus fiable.
Ces traces numériques qui révéleraient finalement nos mensonges.
Écoutez, j'ai pas envie d'être trop négatif. C'est pas peut-être des mensonges, c'est qui révèlent nos aspirations, nos espoirs, mais peut-être nos espoirs qui ne sont pas réalisés. En d'autres mots, on peut se présenter d'une certaine manière, mais d'autre part, ce qui est clair, c'est les clics qu'on a faits, les articles qu'on a lus, les vidéos qu'on a regardées, les choses qu'on a achetées. En anglais, on appelle ça du « digital exhaust », qui sort de la voiture, de la fumée digitale, vraiment, qu'on émet. Eh bien, c'est possible de connecter toutes ces pièces de data pour voir, en effet, où quelqu'un passe son temps, où quelqu'un aime lire vraiment. On peut se dire qu'on aime peut-être la grande littérature, mais en fait, si on regarde toutes ces traces, peut-être c'est pas la grande littérature en fait qu'on passe son temps à lire. Et c'est ça exactement, cette confrontation, cette contradiction un peu entre qui on espère être dans la vie analogue, dans la vie réelle, et d'autre part, qui est-ce qu'on est, j'appelle ça le « digital double », cet autre numérique qu'on est en fait.
Donc, notre double numérique est donc plus proche de notre véritable personnalité que la façon dont nous nous décrivons.
Ben disons que certainement, elle est plus proche de la réalité ou de la vérité ou de l'évidence pour les gens qui veulent nous juger, pour les gens qui veulent nous évaluer, pour les gens qui veulent avoir de l'information sur nous, etc. Et donc vous savez, tout ce système, toute cette économie politique du data, c'est des questions de publicité ciblée. Quand Amazon vous recommande un livre ou bien quand Netflix vous recommande un film, c'est pour jouer sur votre désir et votre consommation. Et disons que ces traces-là numériques sont plus fiables du point de vue des personnes qui nous surveillent et qui essayent de nous vendre de la marchandise.
Ça veut dire que pour les géants du numérique, on ne peut plus avoir, on ne peut pas avoir de jardin secret.
Disons que leur but, c'est qu'il n'y ait pas de jardin secret. Oui, c'est l'économie politique de tout ce système. Ça, c'est le but. Ceux qui gagnent dans notre système contemporain capitaliste, c'est ceux qui arrivent à nous présenter de la marchandise auquel on sera intéressé. Voilà.
Mais pourtant, sur Internet, il y a aussi de la malveillance. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi on prend ce risque ? Parce que le désir du moment de célébrité l'emporte sur la crainte d'un moment de stigmatisation ?
Ben vous savez, c'est là vraiment où la question du désir est la plus importante et gère toute cette économie politique. C'est là où on habite dans un monde qui est différent des autres mondes auxquels beaucoup d'entre nous ont vécu.
Dans votre thèse, effectivement, le désir est central. Dans la société d'exposition, nous participons nous-mêmes volontairement avec notre consentement entier à la constitution de cette société et de cette masse de données.
Exactement. On participe avec toute notre passion, vraiment. Et c'est ça qui a changé. Parce qu'autrefois, bien sûr, les mêmes acteurs voulaient avoir toute notre information. Et ça se faisait à travers de la discipline, par exemple. Ça se faisait à travers des appareils panoptiques ou autoritaires. Donc on peut penser à George Orwell et son livre fameux, 1984, où Big Brother avait toute notre information, savait tout sur nous, mais savait tout sur nous parce qu'ils avaient contrôle, parce que c'était une manière de faire de la discipline. Donc il y avait, dans chaque appartement, il y avait ce fameux telescreen, cet appareil qui filmait tout, qui enregistrait tout, qui savait tout sur les individus. Eh bien, Winston et Julia, dans ce livre merveilleux, 1984, ils ne voulaient pas le telescreen, mais il était imposé. Eh bien, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on veut le telescreen, ça s'appelle une télé smart, smart TV. On veut tous ces appareils qui nous surveillent, qui captent notre information. Et c'est à travers le désir, ce changement qui est fondamental et à la fois vicieux et à la fois ingénieux, génial. Ça marche à travers notre désir et donc on est constamment en train de mettre des choses sur nos mobiles, par exemple, des applications qui captent toutes nos informations, qui les partagent avec la société qui nous donne la météo, etc. Et toutes ces informations peuvent ensuite être vendues. Mais toujours, on le fait de soi-même avec tout notre désir. On finit par vouloir donner toutes nos données dans cette nouvelle société d'exposition.
Vous appelez dans votre livre à la résistance, mais vous dites bien que c'est compliqué parce qu'effectivement, ce serait se couper d'un espace devenu central dans nos vies. Je voudrais savoir ce que vous pensez du mouvement qui se développe en ce moment, celui du data poisoning, c'est-à-dire de donner volontairement de fausses informations pour fausser son identité sur Internet.
Je pense que toute forme de résistance est importante. Et je pense qu'il va falloir continuer à essayer de jouer avec cette économie politique et de ces manières-là. Mais je ne veux pas être pessimiste, mais le seul problème avec ce data poisoning, c'est qu'on émet tellement de traces que la multitude de traces contredit vraiment ces petits efforts à jouer notre profil.
Ce sera difficile, en mentant un petit peu, on ne mentira jamais assez pour la perturber ou la rendre caduque.
Et c'est parce qu'on laisse des traces maintenant tout le temps. Écoutez, on est toujours sur les réseaux sociaux, on est toujours sur notre mobile, on l'a toujours dans la poche, on est sur les applications, maintenant on est sur Zoom ou bien les autres plateformes parce qu'on est à cause de la pandémie. Donc tout ça nous a rendu de plus en plus des êtres digitaux, numériques. Je veux dire, d'une certaine manière, la pandémie nous a poussés encore plus dans un monde numérique pour la classe qui pouvait se protéger, rester à la maison, utiliser Zoom ou d'autres manières de faire des téléconférences audiovisuelles, etc., de travailler chez soi. Alors, une chose que je remarque récemment, c'est que toute cette vie numérique est devenue moins attirante. Il se peut, mais il va falloir voir si le résultat, en fait, de cette accélération digitale qui s'est faite à la suite de la pandémie va, en fait, rendre moins attirante la vie sur les réseaux sociaux, sur l'écran, etc. Je pense que pour beaucoup de personnes, on s'est rendu compte que vraiment la vie analogue est tellement plus chaleureuse et resplendissante, vraiment.
Merci Bernard Harcourt.
Merci à vous.
Bernard Harcourt, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université américaine de Columbia, auteur de « La société d'exposition » publié aux éditions du Seuil, il répondait aux questions de Sylvie Noël. Julia Galland de la rédaction des Observateurs de France 24 nous rejoint dans le studio des Dessous de l'Infox. Bonsoir Julia.
Bonsoir.
Alors avec Sophie Malibaud, tout à l'heure, on s'est penché sur la lutte contre l'Infox en Afrique. Vous, vous êtes intéressé, vous, à ce qui se fait en Espagne pour lutter contre la désinformation. Et vous avez travaillé sur un outil qui n'est pas commun, un bot, un robot, sur WhatsApp. Expliquez-nous.
Eh bien, c'est le média espagnol Maldita, plus particulièrement son équipe de fact-checking, Maldito Bulo, qui a développé un outil assez novateur sur WhatsApp. Maldita est parti du constat suivant, impossible pour un seul journaliste de traiter manuellement les milliers de questions de leurs lecteurs depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors maintenant, c'est un robot qui s'en charge.
Un robot pour lutter contre la désinformation, donc. Comment ça marche précisément ?
Le principe est simple, on pose notre question à un numéro sur WhatsApp ou on lui envoie même directement le contenu qu'on veut vérifier. Ça peut être une vidéo, un tweet, une photo et grâce à l'intelligence artificielle, la réponse est quasi instantanée. D'ailleurs, j'ai fait le test cet été, il y avait une image qui prétendait montrer un photographe en larmes pendant la conférence de presse de Lionel Messi quand il annonçait quitter le FC Barcelone. Et en quelques secondes, j'ai reçu l'article de vérification qui avait déjà été publié. En fait, la photo n'a rien à voir avec Messi. Le photographe pleurait après la défaite de l'Irak contre le Qatar pendant la Coupe asiatique de football en 2019. Dernière chose, si la photo ou la vidéo n'a pas été vérifiée, la demande est regroupée avec les autres demandes similaires. Et tout est envoyé en direct aux journalistes de Maldita pour qu'ils travaillent sur le sujet.
Bon, qu'est-ce qui change par rapport à des techniques plus classiques alors de vérification d'informations ?
Eh bien, tout l'intérêt du WhatsApp bot, c'est qu'il rend les journalistes plus rapides et efficaces, en plus de donner une réponse immédiate aux lecteurs. Dans la course de vitesse qu'est la lutte contre la désinformation, ça fait la différence. Les faux contenus ne sont plus détectés une fois qu'ils sont viraux sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus tôt, quand ils commencent à peine à être partagés. Alors l'un des exemples que m'a donné le journaliste de Maldita, Andrés Jiménez, le montre assez bien. Le 11 février 2021, les équipes de Maldita faisaient une vérification en direct d'un débat télévisé entre les candidats à la présidence de la Catalogne. Et en plein milieu du débat, ils voient des dizaines et des dizaines de messages sur leur WhatsApp bot à propos d'un test PCR positif au Covid-19 au nom de Salvador Illa, l'ex-ministre de la Santé et candidat présent au débat.
Et dans ce cas, c'est une situation assez risquée, non ? S'il est présent sur un plateau télévisé et qu'il a le Covid ?
Exactement. Si le test est véridique, c'est dangereux pour toutes les personnes présentes sur le plateau. C'est donc une information très sensible. Mais grâce à leur WhatsApp bot, les journalistes ont commencé les vérifications de ce document alors que le débat était encore en cours. Ils ont trouvé que ce test PCR était un faux document et ont publié leur article très rapidement. Alors dans le contexte d'élections et de débats politiques, c'est assez intéressant de réagir aussi rapidement. On verra bien si des médias français prennent la suite de cette innovation espagnole pour l'élection présidentielle qui arrive à grands pas.
Merci Julia Galland. Et on rappelle que toutes les vérifications des observateurs de France 24 sont trouvables sur leur site. Merci, à bientôt.
Vérification faite.
C'est la fin des Dessous de l'Infox. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à produire cette émission. Attachée de production Florence Ponce, à la documentation Déborah Lepage, à la réalisation Olivier Roux. Merci à vous de rester fidèles à cette émission dont vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet. Et je vous rappelle que cela fait maintenant 3 années que nous décryptons le phénomène Infox dans cette émission dont vous pouvez retrouver toutes les éditions sur le site internet de RFI. N'hésitez pas à vous y référer, nous avons reçu les meilleurs experts en la matière. En attendant de vous retrouver à l'écoute des Dessous de l'Infox,
François Bernard
vous dit bonsoir et à vendredi prochain.
L'atelier des...